VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Fin du sommet du G5 Sahel à Bamako au Mali, le chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta remplace son homologue tchadien Idriss Déby Itno à la présidente tournante du groupe régional pour un an. Les leaders des 5 pays du groupe ont insisté à leur réunion sur l'urgence d'une riposte coordonnée aux attaques des groupes djihadistes qui utilisent les territoires maliens comme base de repli. La rencontre des leaders du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad, de la Mauritanie a lieu moins de 3 semaines après l'attentat suicide du 18 janvier qui a fait près de 80 morts à Gao, principale ville du nord malien, attaque revendiquée par le groupe Al-Mourabitoun du djihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar, rallié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Nous assistons ces derniers mois à la multiplication des attaques terroristes dans le Sahel, a déclaré le président sortant du groupe Idriss Déby Itno. Les terroristes se sont organisés pour nous conduire dans une longue et éprouvante guerre, a-t-il ajouté. Si nous n'agissons pas vite, notre espace deviendra durablement un espace terroriste, a souligné le président Idriss Déby Itno. Selon un document de travail de la Réunion consulté par l'AFP, il est désormais admis que ce sont les mêmes groupes terroristes qui ont récemment frappé au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Mali. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont convenus le 24 janvier à Niamey de créer une force pour lutter contre l'insécurité dans la zone du Liptako-Gourma, à cheval sur les trois pays, qui est en passe de devenir, selon le G5 Sahel, un sanctuaire de groupes terroristes et de criminels de tout genre. Relations entre la Côte d'Ivoire et le Ghana débutent ce lundi au Tribunal international du droit de la mer, le TIDM, à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, d'une série d'audiences publiques destinées à délimiter la frontière maritime entre les deux pays. Le Ghana a été le premier à présenter sa plaidoirie à la réunion qui se poursuivra jusqu'au 16 février, selon le calendrier publié par le TIDM. Une décision est attendue en cours d'année, a précisé un porte-parole du tribunal, sans toutefois donner de date précise. Le Ghana et la Côte d'Ivoire se querellent sur le tracé de leur frontière maritime qui traverse un gisement de pétrole offshore que les deux voisins souhaitent exploiter. Au Tchad, remaniement ministériel, plus de détails avec Orzoma Compaoré.
Le nouveau gouvernement compte désormais 38 membres, 28 ministres et 10 secrétaires d'État. Les ministres de la Défense et de la Sécurité intérieure restent les mêmes. La grande surprise, c'est l'arrivée du cinéaste Mahama Saleh Haroun, qui s'est vu confier le ministère du Développement touristique, artisanal et culturel. Lui qui a présenté à Cannes cette année un documentaire sur le prédécesseur d'Idriss Déby, intitulé Hissène Habré, une tragédie tchadienne. Moussa Faki Mahama, élu président de la Commission de l'Union africaine, quitte le ministère des Affaires étrangères. Il est remplacé par Hissène Brahim Taha, actuel ambassadeur du Tchad à Paris. Le ministère des Finances est confié à Christine George Djigibaye, fonctionnaire à l'Union africaine à Addis Abeba. Le ministère de l'Économie et de la Planification du Développement revient à Ngueto Yambaï, ancien fonctionnaire du FMI.
En RCA, fin des opérations de démantèlement du camp des déplacés de l'aéroport de Bangui. Lancé en décembre dernier, ce processus a permis à plus de 28 000 personnes de regagner leur foyer ou de nouveaux lieux d'habitation de leur choix. Reportage de notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Les 8000 ménages ont été rasés par un bulldozer. Certains déplacés ont regagné leurs anciennes habitations. D'autres, par contre, se sont éparpillés dans la capitale. La ministre des Affaires sociales, Virginie Baïkoua, assure que les retournés seront assistés dans les quartiers.
C'est de venir vers la personne. Tu es installé là, tu vas bien, qu'est-ce qui te manque? Est-ce que vous avez de l'eau? Est-ce que vous avez les moyens pour continuer après à payer? Vous voyez, c'est tout un travail à faire après.
Alors que la majorité a déjà quitté les lieux, un petit nombre visiblement mécontent décide de rester sous le hangar de l'air. Rogard, Pierre Ndoini, explique que sa famille n'a pas encore touché la somme promise par le gouvernement. Donc, difficile pour elle de trouver une maison de location.
Ce qui ne marche pas, c'est qu'on nous a promis une petite somme pour pouvoir se réinstaller à l'extérieur de notre départ. Malheureusement, on n'a pas eu cet argent, c'est pourquoi nous sommes restés.
Et qu'est-ce qu'on vous a dit?
On nous a fait des promesses et cette promesse, on pense que ça peut être irréalisable.
Vous pensez que vous allez rester ici pendant combien de temps, puisque tous les autres sont partis?
Ça, on en sait rien dessus, exactement.
Ça vous inquiète?
Effectivement, on est inquiet.
Une dizaine de ménages se trouvent dans la même situation que la famille de Pierre. Les responsables en charge de cette opération ne souhaitent pas pour le moment s'exprimer sur ce qu'ils considèrent comme des cas isolés. À l'exemple du site de l'aéroport Bangui Poko, plusieurs autres comptes de la capitale sont déjà fermés. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Quelques jours seulement après la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine, la question du Sahara occidental revient à la surface avec de nouvelles déclarations, voire des menaces de la part des protagonistes. Les explications de Gaby Dorsil.
D'abord, Brahim Khalil, chef du mouvement indépendantiste sahraoui Polisario, a déclaré à l'AFP que toutes les options restaient ouvertes au Sahara occidental après l'adhésion du Maroc à l'Union africaine. Une référence à peine voilée à la possibilité d'un retour à une confrontation armée dans cet espace désertique où un cessez-le-feu est en vigueur depuis 1991. Le Polisario revendique l'indépendance, mais Rabat préfère un Sahara occidental autonome sous souveraineté marocaine. Et comme pour faire taire toute velléité du front indépendantiste après le retour du royaume chérifien dans l'UA, le ministre marocain délégué aux affaires étrangères, Nasser Bourita, a martelé hier dimanche que son pays ne reconnaîtra jamais la République arabe sahraoui démocratique. Le front Polisario souhaite néanmoins la reprise des négociations sur le Sahara occidental, a affirmé son chef Brahim Khalil.
Aux États-Unis, le bras de fer se poursuit aujourd'hui entre l'administration Trump et la justice américaine sur le décret migratoire. Pendant ce temps, des citoyens des sept pays à majorité musulmane visés par le texte profitent de la suspension du décret pour se rendre aux États-Unis avant un éventuel nouveau revirement. Georges Bion.
La Cour d'appel fédérale de San Francisco a en effet rejeté dimanche l'appel formulé la veille au soir par le ministère américain de la Justice contre une décision prise par un juge de Seattle. Elle a aussi maintenu cette décision du magistrat James Robert. Il avait émis vendredi une injonction temporaire qui a effet sur l'ensemble du territoire américain, bloquant le décret présidentiel le temps qu'une plainte déposée il y a une semaine soit examinée. Infligeant un nouveau camouflet à Donald Trump, la justice a confirmé que les ressortissants de sept pays musulmans visés par le test controversé pouvaient continuer de rentrer aux États-Unis. Mais la brèche pourrait se refermer rapidement. N'arrive pas à croire qu'un juge mette notre pays en pareil péril. Si quelque chose arrive, tenez-le pour responsable ainsi que le système judiciaire. Les gens affluent, mauvais, a tweeté le président Trump.
Par ailleurs, Donald Trump a accepté l'invitation du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à rencontrer les dirigeants des États membres de l'Alliance Atlantique au mois de mai. C'est ce qu'annonce la Maison-Blanche. Le président Trump, qui a qualifié l'OTAN d'obsolète et dit vouloir se rapprocher de son homologue russe Vladimir Poutine, grand détracteur de l'Alliance Atlantique, a déclaré à plusieurs reprises que les membres de l'OTAN devraient participer davantage au coût de leur sécurité s'ils veulent que les États-Unis continuent à la garantir. Et puis, le conflit en Syrie, les djihadistes du groupe État islamique sont désormais complètement encerclés dans la ville d'Al-Bab, leur dernier fief dans la province d'Alep, dans le nord du pays. C'est ce qu'a annoncé ce lundi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Coupe d'Afrique des nations de football au Cameroun, c'est fini avec un cinquième titre continental pour le Cameroun qui a battu 2-1 hier soir les Pharaons d'Égypte, pourtant favoris dans la finale. Tous ces joueurs en deuxième mi-temps, nous dit notre envoyé spécial sur place au Gabon, Timothée Donangmaï.
La partie semblait pourtant mal engagée pour les Lions camerounais. Ils regagnent les vestiaires avec un but enregistré à la 21e minute et signé El Neni. Le gardien de but camerounais, Fabrice Ondoa.
Et ils nous ont pressionné très haut. À la troisième, deuxième minute, ils avaient déjà une occasion. Et un peu plus tard, ils ont mis le premier but. Et vraiment, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai ressenti de la fatigue au niveau de l'équipe aussi. Parce qu'on n'a pas eu de temps de repos. On n'a pas eu de temps de récupération. Mais je pense qu'avec la détermination, le courage et le cœur du lion que nous avons montré ce soir, c'est passé.
À la reprise, les Égyptiens qui étaient si vifs semblent maintenant léthargiques. Un fait que confirmera leur coach en conférence de presse. Les Camerounais saisissent cette opportunité pour égaliser par un coup d'une belle tête. Venu du banc de touche, Vincent Abou Aboubakar gagne un duel avec la défense égyptienne, marque et donne le trophée au Lyon. Dans les gradins, leurs fans reprennent en chœur l'Égypte dans la sauce, l'Égypte dans la sauce, une adaptation de la chanson à succès de leur compatriote Renis. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
Et pour terminer, la reine Elisabeth II, doyenne des monarques en Côte du monde entier, a battu aujourd'hui un nouveau record de longévité en célébrant son jubilé de saphir qui marque ses 65 ans sur le trône d'Angleterre. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.